Yofi. Tov, alors, Eretov à tous et à toutes, Poker Tov, enfin, chacun en fonction, comme d'habitude, de là où on est. Alors aujourd'hui, les amis, Pourim, Pourim, alors c'est vrai, j'aurais dû venir déguisé, mais j'avais pas préparé mes déguisements encore, mon déguisement n'est pas prêt, car faut savoir que chez nous, les déguisements, c'est Kodesh Kodashim. C'est très, très, très important, les déguisements. On y passe énormément de temps et d'après ma femme, beaucoup trop d'argent. Mais c'est très, très, très important, nos déguisements. Donc, Bezrat Hashem, je vous enverrai une photo du déguisement de cette année. On a une grosse réputation ici en Israël de déguisement. Alors, Pourim, les amis, Pourim, comment vous dire? Oh, j'ai envie de vous dire que c'est ma fête préférée, mais c'est la fête préférée de tout le monde. Franchement, qui n'aime pas Pourim? Qui n'aime pas Pourim? Qu'est-ce qu'on te demande à Pourim? Bon, alors c'est vrai, on t'a demandé d'aller à la synagogue pour écouter un petit texte, mais c'est quand même moins dur à supporter que Kippourim. Kippourim, t'es à la synagogue pendant 25 heures et t'entends le rabbin et le chazan chanter à tue-tête sans s'arrêter. Non, Pourim, t'as une petite histoire sympathique. Dans ma synagogue, on a même l'habitude de lire la Megillah avec plusieurs voix pour que les gens entrent vraiment dans l'histoire. Et donc, c'est sympa, la Megillah, ça veut dire quoi? Une demi-heure, yalla, tchic-tchac. Et puis après, on me demande quoi? De manger, de boire, d'être content, d'emmener un petit cadeau à tes voisins? Nous, franchement, Pourim, c'est génial. Aval, et c'est là que le grand aval commence. Pourim, eh bien, c'est une fête incroyable, mais c'est également des chansons. Eh oui, ça fait maintenant près de 2 semaines qu'on est rentré dans les chansons de Pourim, et il y en a une qui m'intéresse particulièrement ce soir, c'est une chanson que vous connaissez qui s'appelle « Miché Miché ». Vous connaissez « Miché Miché » ?« Ben voilà, même toi tu connais « Miché Miché », ben oui.
Tu ne connais pas
cette
chanson? Non, tu dis c'est « La belle goulette, la belle goulette ».
C'est pas mal. « Miché Miché ». Alors, avant d'être une chanson, « Miché Miché », eh bien, c'était d'abord un enseignement du Talmud. Et à dire vrai, c'est un enseignement qui n'est pas directement lié à Pourim, puisque le Talmud, dans le traité de Ta'anit, nous dit la chose suivante. « Amar Rav Yehuda bereid Rav Shmuel bar Shilat ». Voilà ce qu'il nous enseigne. « Miché, keshem she miché nichnas av, mema'atim besimcha, miché nichnas adar, marbim besimcha. » Et cette phrase, elle demande à être expliquée. On nous dit, de la même façon que lorsque rentre le mois de Av, calme-toi dans ta simcha, eh bien, lorsque rentre le mois de Adar, yalla, simcha. Sauf que, si j'ai besoin de te dire en Av, calme-toi, ça veut dire que si je ne te l'avais pas dit, quel aurait été, eh bien, ton sentiment naturel en Av, si on a besoin de te dire calme-toi? Eh bien, c'est que j'aurais été sa mère, a priori. Et si en Hadar, on me dit, allez, vas-y, sois heureux, eh bien, c'est que naturellement, j'aurais pas été heureux. Vous savez ce que c'est? Vous savez, Rabbi Nachman de Breslav qui nous dit, Yesh mitzvah gedola liot besimcha tamid. Eh oui, mais ces phrases-là, elles viennent que du monde ashkénaz, où régnait une tristesse pratiquement permanente, entre les pogroms, la faim, tout ce que vous voulez. Donc, quand quelqu'un il va pas bien, il est en down, alors tu lui dis « Yalla, up, yalla, réveille-toi, yalla, tout ira bien, yalla !» Mais quand tu as besoin de dire à quelqu'un « tout ira bien hein, », c'est que tout va mal. En Av, on nous dit « Miché nichnas Av, calme-toi ». Comme si en Av, on allait être très, très, très heureux. Eh bien, effectivement, il y a en Av, dans le mois de Av, un événement qui est fondamentalement joyeux. Et je ne parle pas de Tou B'Av. Tou B'Av, c'est sympa, c'est pour les amoureux, pour les romantiques. Non, 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 il y a un événement en Av qui est terriblement joyeux si on y réfléchit bien. Et je veux parler de Tisha B'Av, ou alors Tcha'abeb, comme on dit dans le jargon. Mais Tisha B'Av, pourquoi est-ce que c'est joyeux? Eh bien, tout simplement parce que à Tisha B'Av, le premier Beth Amikdash a été détruit, le deuxième Beth Amikdash a été détruit. Attendez, mais il est déjà bourré le rabbin? Comment ça? Tu me dis que le Beth Amikdash, il a été détruit, et c'est ça qui est joyeux? Eh bien, regardez ce que nous dit le Yalkut Shimoni. Le Yalkut Shimoni, à propos de Tehilim, nous dit, vous connaissez ce Tehilim qui nous dit, à propos du Tehilim à une tête, qui nous dit, Mizmor le Asaf, Elohim baim baou goim benachalatecha. Et là, tout de suite, le Yalkut, il demande, Mazem Mizmor le Asaf. Il y a tout un Tehilim qui parle de la destruction du temple. Et il dit, comment tu peux dire Mizmor? Mizmor, c'est un chant joyeux. T'aurais dû dire Kina le Asaf. C'est une douleur terrible. Et le Talmud, le Midrash Sikha répond, oui, bien sûr que c'est terrible la destruction du temple, mais ça a montré que même lorsque Dieu est extrêmement énervé contre nous, il ne détruit pas le peuple juif, il ne détruit que les murs et le bois. En d'autres termes, la destruction du temple, bien que terrible, a révélé que quoi qu'il arrive, Dieu n'enlève pas son alliance avec le peuple juif. C'est très joyeux. Oui, certes, c'est joyeux, mais avec ce qui nous est arrivé quand même, et quand tu lis Flavius Joseph, tu vois qu'il y a eu près d'un million de morts, ben tu te dis, oh, 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 calme-toi. Tu peux pas officiellement être joyeux à Tisha B'Av. Eh bien, il se passe diamétralement l'inverse à Purim. Miche nichnas adar, marbim besimcha. Si on a besoin de te dire les arbot besimcha, d'en rajouter, c'est que naturellement, eh ben, t'aurais pas été joyeux. Et pourquoi tu n'aurais pas été joyeux? Eh bien, parce que à Purim, s'est passé un événement terrible. Alors, je voudrais ce soir profiter de ce Zoom pour vous montrer mes qualités de dessinateur. Mes qualités de dessinateur incroyables. Je vous ai résumé la fête de Purim avec un schéma. J'espère que tout le monde voit bien mon schéma. C'est un schéma magnifique. Alors voilà la fête de Purim. C'est l'histoire d'un homme. Il était content. Il se baladait dans la rue. Ah, il est content, il se balade dans la rue, il se fait plaisir. Eh bien, à un moment donné, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais notre homme, eh bien, il n'a pas fait attention et pouf, il est tombé dans le trou. Oh, il va voir, il est tombé dans le trou. Terrible situation. Seulement, et là, j'ai fait un agrandissement du trou. Dans le trou, il y a tout d'un coup, vient d'arriver un serpent terrible dans le trou. Vous pouvez le voir ici. Et à ce moment-là, il est dans un stress pas possible. Il prie Dieu, il dit « Oh, il veille !» Et là, Dieu lui fait un grand miracle. Il découvre ici une pierre qui était à côté de lui. Il prend la pierre, il tue le serpent. Ouh ! Et il est toujours dans le trou. Eh bien, voilà, les amis, la fête de Purim résumée en un schéma magnifique. Eh oui, Purim, Mastomeret, Purim, c'est terrible. Purim, vous savez comment commence la Megillah? La Megillah commence en nous disant Vayehi bimei Achashverosh. Vayehi bimei Achashverosh. C'est terrible, Vayehi bimei Achashverosh. Alors que ça aurait dû être, qu'est-ce qui aurait dû avoir marqué normalement? Normalement, il aurait dû avoir marqué Vayehi bimei Amelech Zerubavel ben Shaltiel. Rappelez-vous, historiquement, la fête de Purim se place après le retour normal des exilés de Babylone, puisque la fête de Purim se passe après que le prophète Haggai nous dise que l'exil est terminé, qu'il faut rentrer en Israël avec un des descendants directs de David Ameler, Zerubbabel. Vous vous rappelez, dans la chanson de Hanouka, on dit « Ketz Babel, Zerubbabel ». Eh bien, Zerubbabel, c'est lui. Normalement, on devrait tous rentrer à Jérusalem. Mais non, ce n'est pas le cas. On est resté à Shushan Abira, on est resté en Perse, on est resté à Babylone. On est dans le trou de l'exil. À ce moment-là, bon bah, vous savez comme moi, on a tous vécu en exil un peu plus, un peu moins. Moi, j'ai passé une grande partie de ma vie en France et on était bien. Et on était bien. Moi, je vais vous dire, j'ai jamais vraiment vécu l'antisémitisme. J'ai rien de négatif à dire sur ma vie en France. J'ai kiffé ma vie en France. Ni plus, ni moins, j'ai totalement kiffé. J'avais de très bons amis, un mode de vie très sympathique. Voilà, j'ai rien de négatif à dire. Et je pense qu'il en va de même pour les Juifs de Shushan Abira. Ils se sentent bien, tout va bien. Et à un moment donné dans l'histoire de Shushan, arrive le serpent, arrive Aman, arrive l'antisémitisme, arrive les années 30 en Europe. Je veux dire, quand tu regardes la situation des Juifs au début du XXe siècle, en Europe, en France particulièrement, c'est le Gan Eden. Et puis tout d'un coup arrivent les années 30, et puis tout d'un coup arrive Amalek, et puis tout d'un coup arrive le serpent de l'antisémitisme. Et quand on regarde l'histoire de Pourim, c'est un combat terrible pour la survie du peuple juif. Et à la fin de l'histoire, on a réussi à prendre une pierre, on a tué le serpent, on a tué Aman, Yovi. Sauf qu'à la fin du film, ben on est toujours dans le trou. C'est-à-dire que comment se termine la Megillah ? Nous, on a l'habitude, vous savez, les enfants, quand ils entendent la Megillah et qu'ils disent « La Yehudi Maïta Ora Vesimcha Vesasson Vikal » ça y est, on a déjà commencé à sortir les feux d'artifice. Et les pizzas sont déjà en train de cuire dans ma synagogue et les enfants savent que les bonbons, ça arrive dans deux secondes. Mais on oublie que dans la Megillah, il y a un dixième chapitre. La Megillah, ce n'est pas seulement neuf chapitres qui se terminent par la Yehudi Maïta Ora Vesimcha, mais ça se termine par le dixième chapitre. Et comment commence le dixième chapitre de la Megillah ? Eh bien, il nous dit « Vayasem amelech achashverosh mas ala aretz veye ayam » C'est-à-dire que Achashverosh a fait une levée d'impôt. Pas un impôt anti-juif, hein. Attention. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a en France un impôt qui s'appelle le fisc. Le fisc a pour origine linguistique le fiscus judaicus, l'impôt juif qui avait été mis en place par les Romains après la destruction du Second Temple. Mais là, il ne s'agit pas d'un impôt antisémite. À la fin de la Megillah, Achashverosh, en tant que roi de l'Empire perse, eh bien, fait une levée d'impôt. Alors, pourquoi est-ce que ce verset nous intéresse ? Parce que ça veut dire qu'à la fin de l'histoire, eh bien, le chef, ça reste Achashverosh. C'est-à-dire que la fin de l'histoire, on est toujours en exil. Alors que normalement, dans le livre de Ezra, on nous raconte, Ezra, ça se passe après Pourim. Mais on nous raconte que, bien déjà bien avant, il y avait eu la fameuse déclaration Koresh, la déclaration Balfour de l'époque, qui permettait aux Juifs de revenir en Israël et de reconstruire le Beth Amikdash. En d'autres termes, eh bien, l'histoire de Pourim, c'est une histoire d'exil. D'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'il y a une tfila qu'on dit dans la majorité des fêtes, mais qu'on ne dira pas à Pourim. C'est quoi cette tfila magnifique ? C'est le Hallel. On ne dira pas le Hallel à Pourim. Pourquoi on ne dira pas le Hallel à Pourim ? Eh bien, c'est une question qui est posée par le Talmud dans le traité de Megillah. Eh oui, que nous dit le Talmud ? Nous dit, tu ne peux pas dire le Hallel à Pourim pour trois raisons. Il y en a une qui dit, le plus grand que tu peux faire à Pourim, c'est de dire la Megillah. Tu peux pas dire le Hallel, tu dis la Megillah. Kriyata zo Hallela. Mais les deux autres raisons qui sont amenées par le Talmud expliquent la troisième, celle que je viens de vous donner. Le Talmud nous dit, comment tu veux dire le Hallel? D'abord, c'est un miracle qui a eu lieu en Chutz La'aretz. Or, le Hallel, tu le dis pour un miracle qui a eu lieu en Eretz Israël. Vous allez me répondre, mais c'est pas vrai. On dit le Hallel à Pessah. Et à Pessah, c'est un miracle qui a eu lieu à la sortie d'Égypte, pas à la rentrée en Israël. Oui, mais le Talmud répond tout directement à ta question, en disant, certes, mais avant que Am Israël ne rentre en Israël avec Yehoshua, eh bien, toutes les terres étaient propices pour dire le Hallel. Mais à partir du moment où on est rentré en Israël avec Yehoshua, c'est que pour un miracle en Eretz Israël. Mais le Talmud dira sa troisième explication, qui est la plus importante. Il dit, mais quand tu commences le Hallel, la première phrase, c'est de dire « Alléluia, Alléluia, Avdé Hachem ». Que nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous louons Dieu. Et le Talmud dit « Mais là, tu ne peux pas dire ça à Pourim, puisque nous sommes serviteurs d'Achashverosh ». En d'autres termes, eh bien, on ne dira pas le Hallel à Pourim à cause du fait que c'est une fête d'exil. D'ailleurs, vous savez comme moi qu'il y a eu plusieurs Pourim dans l'histoire, qui ont été des Pourim de communauté. Il y a eu le Pourim de Francfort, le Pourim d'Alger, le Pourim de Constantine. Plein d'endroits qui ont eu un danger terrible qui les a menacés. Et finalement, ils ont été sauvés du danger. Et donc, la communauté a décrété un Pourim. Seulement, eh bien, aujourd'hui, on ne les fait plus, tous ces Pourims-là. Parce qu'on se dit, bon, c'est un petit peu exagéré. On est revenu en Israël, il y a l'État d'Israël, on va continuer à faire le Pourim de Francfort. Mais sauf que, si Pourim, c'est bel et bien une fête d'exil, comme je suis en train de vous le dire, alors pourquoi aujourd'hui, alors que ça y est, on est revenu à la maison, on continue à fêter Pourim ? En voilà une question qui est bonne. Eh bien, les amis, cette question de pourquoi on continue à fêter Pourim aujourd'hui. Et vous savez quoi? Dans quelques minutes, je vais vous dire non seulement on continue à fêter Pourim aujourd'hui, mais non seulement le Talmud, mais le Midrash surtout, va nous dire que Le'atid Lavo, Le'alkut Shimon, il nous dit Le'atid Lavo, Kol Hagim Betelim Chutz Mipurim. C'est-à-dire que non seulement on continue à faire Pourim aujourd'hui, mais même dans l'avenir où on annulera les autres fêtes, Pourim restera. C'est-à-dire que Pourim est intemporel en vérité. Oui, Yohan?
C'est l'homme à Torah.
D'accord, mais Hanouka non plus. Et pourtant, Hanouka n'a pas le même statut que Pourim. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi Pourim a ce statut si particulier? Eh bien, à savoir pourquoi on continue à faire Pourim, même aujourd'hui à l'ère de l'État d'Israël, eh bien, c'est marqué noir sur blanc dans la Megillah. Alors, je vous emmène, si vous voulez bien, dans la Megillah, à la fin de la Megillah, au chapitre 9, au verset 28. Là-bas, le texte nous dit la chose suivante. Ve'ayamim ha'ele nizkarim ve'na'asim bechol dor vador mishpacha o mishpacha, medina o medina, ve'ir va'ir. Et là, nous dit la Megillah, vime apurim ha'ele lo ya'avru mitoch ha'yehudim ve'zichram lo yasuf mizara'am. Voilà ce que nous dit le verset, je traduis. Et ces journées de Pourim seront fêtées dans chaque génération, dans chaque famille, dans chaque pays, dans chaque ville. Et ces journées de Pourim ne disparaîtront pas d'entre les Juifs et leur souvenir restera chez leurs descendants. Voilà le verset de la Megillah, chapitre 9, verset 28. Il y a un homme qui va nous donner un commentaire incroyable de ce verset. Et je vais vous dire, ce commentaire, il est arrivé bepourim, c'est-à-dire befuxim. Vous savez ce que veut dire le mot pourim en français? Ça veut dire par hasard. Ipil pour ou agoral. C'est quand même incroyable d'appeler une fête coup de bol. Ça, la fête de pourim s'appelle en français coup de bol. Je sais pas comment tu traduirais ça bien en anglais, mais c'est ça. Où est mon traducteur préféré? Comment tu dis coup de bol?
Un flou. Coup de bol. Flouk, bravo Yohanan.
Ben voilà. Donc, il faut appeler ça flouk. C'est floukim. Alors, c'est floukim. C'est-à-dire, maintenant, il y a un homme qui a donné cette explication de flouk. Il s'appelle le Natsiv de Volozhin. Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, le Natsiv de Volozhin. Il a écrit un commentaire sur le livre de Shemot. Et vous savez comment ça se passait à l'époque? Tu n'avais pas d'ordinateur pour imprimer. Tu allais chez l'imprimeur. Et à l'époque, pour imprimer, il y avait des grandes feuilles avec des caractères qu'on posait dessus et on imprimait et c'est comme ça, c'était terminé. Et donc, une fois que l'imprimeur, il arrive à la dernière page du commentaire de Shemot, il dit au natif, il me reste un peu de place en bas de la page. C'est dommage. Une fois que j'aurai imprimé, c'est terminé. Donc, si tu veux, il me reste un peu de page, tu peux écrire un petit truc. Alors, le natif va écrire un petit commentaire sur la Megillah qu'on va lire en général pendant le livre de Shemot. Bekitzur, donc il nous dit la chose suivante. Le dit le natif, vime apurim ha'ele, lo ya'avru mitoch ha'yehudim. C'est-à-dire, on fera ces journées de Pourim tant qu'on s'appelle Yehudim. Mais Yehudim, nous dit le natif, c'est notre appellation bagalout. C'est notre appellation en exil. Nous sommes des Juifs, des Juden, des Jews. C'est ça notre appellation pendant l'exil. Mais nous dit le natif, mais en temps de Géoula, on ne s'appelle plus des Juifs, on redevient Béné Israël. Et Béné Israël, ça s'appelle les descendants des Juifs. Les successeurs de 2000 ans de Juifs, ça s'appelle Béné Israël. Nous, aujourd'hui, nous sommes redevenus des Béné Israël. Nous dit le natif, eh bien la Megillah nous dit, « Vezichram lo yasuf mizaram », c'est-à-dire le souvenir de Pourim ne disparaîtra pas non plus des descendants des Juifs, à savoir les Béné Israël. En d'autres termes, il faut continuer à faire Pourim, même lorsque on est en temps de Géoula, État d'Israël, la folie. Mais ça ne répond pas à la question « Pourquoi ?» Lama, qu'est-ce qu'elle a de si particulière cette fête? Et d'autant plus qu'on va la faire même l'Eatid Lavo quand on aura annulé toutes les autres. Bémet, Sheela Gedola. Eh bien, les amis, je vous propose de dévoiler ce soir, à mon sens, l'un des plus grands secrets de la Megillah. Vous savez, quand on regarde la Megillah, quand on regarde l'histoire, je pense que tout le monde la connaît par cœur, le nombre de pièces de théâtre que nos enfants ont fait au GAN, on connaît la Megillah par cœur. Et je pense que si on devait demander, dans la Megillah, sans parler des Midrashim, dans la Megillah, à partir de quand tous les problèmes ont commencé? C'est quand que c'est parti en cacahuète dans la Megillah?
Tu avais refusé de descendre la rampe.
Ah, ben ça, c'est pas encore un problème pour nous, au contraire, ça va mettre Esther au pouvoir. Ça, c'est pas encore l'antisémitisme, on le voit pas à ce moment-là. Il a fait
que
Mordechai refuse de se prosterner. Et ben voilà. Exactement. C'est-à-dire que Mordechai refuse de se prosterner devant Aman. Et ça va créer toute la tension, et Aman va être énervé, il va proposer de tuer Mordechai et tout son peuple. Sauf que, j'ai une petite question à vous poser. Pourquoi il n'a pas voulu se prosterner? La Mama Kara. Et vous avez certainement plein de réponses qui vous viennent dans la tête. Mais avant que vous les donniez, je voudrais quand même vous rappeler une chose. Toutes les réponses qui vous viennent dans la tête de pourquoi Mordechai ne s'est pas prosterné, elles sont peut-être très bonnes, mais elles ont toutes un point commun. Elles ne sont pas marquées dans la Megillah. À aucun moment, on nous explique dans la Megillah pourquoi Mordechai ne veut pas se prosterner. Il est en train de mettre en danger tout le peuple juif. Dans deux secondes, il y aura la Shoah à cause de lui. Pourquoi il ne veut pas se prosterner? Mais au travers de cette question-là, j'en pose une deuxième. Regardez, je voudrais vous montrer quelque chose. Je vais tourner l'ordinateur deux petites secondes. Ma synagogue, je suis dans ma synagogue, comme vous pouvez voir, mais ma synagogue, durant la semaine, c'est également un gagné la dîme. Bon, c'est un gagné la dîme qui n'a pas fonctionné pendant très 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 longtemps, mais c'est un gagné la dîme. Et regardez, ils ont mis au mur une photo de Mordechai et Yehudi. Je voudrais vous montrer Mordechai et Yehudi tel qu'il est enseigné dans les Gané Israël. Regardez ça. C'est-à-dire Mordechai et Yehudi, c'est un chassid de Pologne. Il a un Shtreimel, il a une barbe, il a un bon tzitzis comme ça au-dessus des vêtements. C'est un véritable chassid polonais. Sauf que non. Sauf que non. Mordechai et Yehudi, il est très, très, très loin d'être un chassid polonais. Mordechai et Yehudi, c'est un perse. Et je voudrais vous dire mieux que ça. Je ne sais pas quelles sont vos connaissances cinématographiques. J'ai dit à mon père, je lui ai dit, t'as jusqu'à Motsei Shabbat, parce que je fais une conférence Motsei Shabbat pour la communauté de mes parents en France. Je lui ai dit, t'as jusqu'à Motsei Shabbat pour me trouver le rapport entre Pourim et le film 300. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, le film 300, mais a priori, quel rapport avec Pourim? C'est pas très clair. Les mecs, ils ont des abdos incroyables. Ils ont... voilà, mais c'est pas vraiment Pourim, normalement. C'est le 300, c'est le combat de l'armée perse contre les Grecs. Le combat des Thermopyles mené par le roi Léonidas qui va perdre ce combat des 300 Spartiates contre l'Empire Perse. Bon, quel rapport avec Pourim? Mais je vais vous dire. Le général en chef de l'armée perse qui mène le combat des Thermopyles s'appelle Mordor. C'est Mordechai à Yehudi. Nous dit le Talmud dans le traité de Megillah que Mordechai aya sar giyasot shel Achashverosh. Il était général en chef des armées d'Achashverosh. Je voudrais juste vous, c'est pas le sujet que je veux aborder avec vous ce soir, mais simplement qu'on se mette dans la tête. Vous savez, quand on passe entre le premier chapitre de la Megillah et le deuxième, c'est l'histoire de Vashti, il a tué Vashti et il veut la remplacer par une autre femme. Je voudrais simplement que vous rappeliez bien que le premier verset, le premier chapitre de la Megillah commence la troisième année du règne d'Achashverosh, le deuxième chapitre de la Megillah commence la septième année du règne d'Achashverosh. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 4 ans? Nous, on a l'impression, Hogan, qu'il a tué Vashti et que le lendemain matin, il s'est réveillé de sa gueule de bois et il a dit « je veux une nouvelle femme ». Non, il s'est passé 4 ans entre les deux. Et il a fait quoi pendant ces 4 ans? Eh bien, allez voir le Rav Google. Le Rav Google, lui, il va vous dire, pendant ces 4 ans, il y a eu ce que les historiens grecs appellent la mère de toutes les guerres. C'est une guerre mondiale entre l'Empire perse et la Grèce. Une guerre terrible durant laquelle Achashverosh va perdre la guerre. Mais Kitsou, je mets ça de côté et je pose ma deuxième question. Si on a demandé pourquoi Mordechai ne s'est pas prosterné, il y a une autre question. C'est qui ce Mordechai? Je ne le connais pas, moi, Mordechai. Alors on me dit vaguement qu'il fait partie d'une famille aristocratique. On nous dit « Asher Ogla, Yerushalayim, Imagola, Asher Ogleta, Imechonia, Melech Yehuda. » C'est-à-dire que les Ashkenazim, ils kiffent ce verset. Il y a 3 versets dans la Megillah où on change l'air et on fait l'air de Tisha B'Av. Et là, les Ashkenazim, ils sont contents. Parce que, comme disait ma grand-mère, si tu peux être triste, pourquoi être joyeux? Je veux dire, ou t'es Ashkenaz ou tu l'es pas, quoi. Ça veut dire, à un moment donné, eh oui. Tu sais, quand j'appelle ma grand-mère le Shabbat, vendredi, pour aller souhaiter Shabbat Shalom, et qu'elle me dit comment ça va, et que j'ai l'erreur de lui dire, bah bon, prochain tout va bien, elle me dit, t'inquiète pas, ça va passer. C'est un concept, le monde Ashkenaz. Alors, les amis, je voudrais que maintenant on donne une réponse à pourquoi il s'est pas prosterné. Et c'est la même réponse de qui c'est Mordechai. En vérité, je vous ai dit, il n'y a pas de réponse dans la Megillah, mais nos commentateurs vont écrire des dizaines, des centaines, des milliers de livres pour nous expliquer pourquoi il ne s'est pas prosterné et donc qui est Mordechai. Mais je répète, je vais donner 5 explications. Mais les 5 ont le point commun de ne pas être marqués dans la Megillah. Alors la première explication, c'est l'explication de Rashi. Rashi nous dit... Pourquoi est-ce que Mordechai ne s'est pas prosterné? Entre parenthèses, temps mort. Il n'y a aucun interdit halakhique de se prosterner devant un autre être humain en signe de kavod. C'est moutard. Toute personne qui fait du judo ou du karaté sait que lorsqu'il commence un combat, il se fait une kida devant son adversaire, c'est pas assour. De la même façon, tout le monde sait que lorsque tu rencontres la reine d'Angleterre, tu fais une révérence et c'est pas interdit non plus. Ok? Il n'a aucun interdit de se prosterner devant un homme si ce n'est pas une question d'idolâtrie mais simplement une question de kavod. D'autant plus que qui a demandé qu'il fallait se prosterner devant Aman? C'est le roi. Le roi a ordonné qu'on doit montrer du kavod à son premier ministre et donc on doit se prosterner devant Aman. Pourquoi Mordechai se prosterne pas? Eh bien, Rashi nous dit la chose suivante. Rashi nous dit que Aman asa atzmo avodazara. Que Aman se prenait lui-même pour une divinité. Ah ah, intéressant. Mais comment est-ce que Mordechai peut le savoir? Mordechai, vous comprenez bien que Aman, lorsqu'il se prend pour une divinité, il le fait pas officiellement. Parce qu'à ce moment-là, Achashverosh va le tuer. Pour qui tu te prends? Comment Mordechai peut-il savoir que Aman se prend pour un dieu? Eh bien, selon Rashi, ça ne laisse pas d'autre explication. Mordechai est prophète. Et donc, Dieu lui a révélé que Aman se prend pour un dieu, et donc il ne se prosterne pas devant lui. Ora tcha'a shel navi, il a beau mettre en danger tout le peuple juif, Dieu lui a dit, ne se prosterne pas. D'après cette première explication de Rashi, Mordechai ou navi. Et ça correspond à pas mal de midrashim. Top, il a fait merde. Mais encore une fois, ce n'est pas marqué dans la Megillah. La deuxième explication nous provient de Rabbi Avraham Ibn Ezra. Rabbi Avraham Ibn Ezra nous donne une explication qu'on connaît tous en fait. C'est la plus connue. Que Mordechai avait un signe d'idolâtrie sur son vêtement. Je sais pas, il portait une croix, il portait... Bon, c'est peut-être un petit peu anachronique de dire qu'il portait une croix, mais bon... Il avait un symbole d'idolâtrie sur son vêtement. Ah ben alors là, désolé, on n'a pas le droit de se prosterner devant les symboles d'idolâtrie. Je vous rappelle que c'est ce qui s'était passé il y a deux, trois ans. Il y avait eu une visite officielle du président de l'État d'Israël au Vatican Et la secrétaire particulière de Ruby Rivlin, le président de l'État d'Israël, c'est une femme religieuse, ravédite, d'Israël, mère de 11 enfants, très religieuse. Et quand elle est arrivée devant le pape, et ben normalement, d'après le protocole, tout le monde se fait la révérence devant le pape. Et elle n'a pas fait. Ça a presque fait un incident diplomatique. Et le pape lui a demandé pourquoi. Il dit, parce que vous portez une croix, et d'après le judaïsme, c'est de l'idolâtrie, et donc nous n'avons pas le droit de nous prosterner devant l'idolâtrie. Ben, vous ne voyez pas que le pape lui a demandé pardon ? Le pape a demandé pardon à la secrétaire du président israélien en disant il va faire changer le protocole, il faut respecter les croyances de chacun. Kiddush Hashem Gadol. Donc Mordechai, il voit que Aman porte une croix, je ne sais pas quoi, sur son vêtement. Non, je ne me prosterne pas. Maintenant, d'après cette explication de Ibn Ezra, est-ce que Mordechai est forcément un prophète ? Non. C'est simplement un Talmud Chacham qui connaît la halakha. Et pourquoi les autres juifs se prosternaient, oui, devant Aman ? Ils avaient peur. Alors, on connaît ça très bien. Il y a plein de juifs qui font des choses par crainte et pas par halakha. Donc Mordechai, d'après Ibn Ezra, s'est pas prosterné à cause de ce symbole d'idolâtrie, c'est donc un Talmud Chacham. Ça correspond d'ailleurs à d'autres enseignements dans les Midrashim, comme quoi Mordechai faisait partie du Sanhedrin. Mais là encore, ce n'est pas marqué dans la Megillah. La troisième explication est celle donnée par le Midrash dans la Haggadat Esther. Là-bas, on nous dit dans Esther Rabba que, en fait, l'histoire entre Mordechai et Aman, c'est une vieille histoire. Et le Midrash nous raconte qu'en fait, Mordechai est rentré en Israël avec Zerubbabel. Il fait partie des premiers qui sont retournés en Israël. Et il faisait partie en Israël des dirigeants de la communauté juive qui essaye de reconstruire le pays. Aman habitait aussi en Israël. Il venait, d'après le Talmud, du village de Khartoum, dans le Shomron, dans la Samarie. Et Mordechai était un des dirigeants des sionistes qui voulaient s'implanter en Israël. Aman était un des dirigeants des Palestiniens, des non-juifs qui habitaient à ce moment-là en Israël. Et il y avait eu la déclaration du roi Koresh qui permettait de reconstruire le Beth Amikdash. Sauf que il y avait des dissensions, des combats terribles, une intifada incroyable entre les habitants non-juifs d'Israël et les juifs en Israël. À un moment donné, les deux communautés en ont eu marre. Ils ont envoyé des délégations plaider leur cause à la Maison Blanche de Perse chez Achashverosh. Et donc, le chef de la délégation non-juive, c'était Aman, et le chef de la délégation juive, c'était Mordechai. Les deux sont arrivés en Perse, et on connaît l'histoire qu'en chemin, Aman n'avait plus de quoi manger, de quoi boire, il a demandé à Mordechai de l'aider, et Mordechai dit « Ok, mais à ce moment-là, tu te vends à moi comme esclave », ils ont marqué le contrat de vente sur la sandale de Mordechai, toute l'histoire qu'on connaît. Et quand ils sont arrivés en Perse, chacun a plaidé leur cause, et le roi Achashverosh a dit « Je veux faire de vous mes conseillers, et tu peux mettre dedans alors le film 300, parce qu'ils sont devenus tous les deux des généraux de l'armée. » Et à ce moment-là, à un moment donné, Aman est devenu plus important que Mordechai. Si on en suit les Midrashim, Aman est devenu donc premier ministre, Mordechai est devenu ministre de la justice. Puisqu'il y a marqué « Mordechai Yoshev Beshar Amelech ». Et Mishé Yoshev Beshar Amelech, depuis le Tanakh, c'est celui qui juge. Donc en gros, pourquoi est-ce que Mordechai ne se prosterne pas devant Aman ? C'est parce qu'il se déteste depuis toujours. Je ne prosterne pas devant toi, on a un conflit politique depuis toujours. On est en Perse parce qu'on vient plaider ce qui se passe en Israël. En d'autres termes, d'après cette troisième explication, est-ce que Mordechai est un prophète ? Pas forcément. Est-ce que c'est un Talmud Chacham ? Pas forcément non plus. Par contre, c'est un dirigeant sioniste. C'est un dirigeant sioniste qui vient plaider la cause du peuple juif en Eretz Israël. Tov ? Mais sauf que ce n'est pas marqué dans la Megillah non plus. La quatrième explication est celle de Rabbi Eliezer Ashkenazi. Misère Rabbi Eliezer Ashkenazi. Rabbi Eliezer Ashkenazi, c'est la chavruta de Rabbi Moshe Alsheikh, à Alsheikh HaKadosh. C'est un homme qui fait partie de la chaboura du Alsheikh, du Harizal, de Rabbi Yosef Karo. C'est la même équipe, là-bas, à Tzfat, il y a 450 ans. Donc, autant te dire que Rabbi Eliezer Ashkenazi, ce n'est pas un petit joueur. Il écrit un livre qui s'appelle Maase Hashem. Et dans son livre, il parle de Pourim. Et il explique pourquoi Mordechai ne s'est pas prosterné. Et là, c'est une explication incroyable. Il dit, Mordechai était le chef de la communauté juive de Shushan. C'était le président du consistoire. C'était le président des institutions juives aux États-Unis. Je ne sais pas comment il s'appelle. Est-ce qu'il y a un président des institutions juives en Amérique? Il y a un truc comme ça?
Oui, il y a le Council de Jewish Community Relations.
Ben voilà. Alors, dis-toi, c'est le patron de ça. Donc, nous dit Rabbi Eliezer Ashkenazi, Mordechai était le chef de la communauté juive à Shushan. Et pourquoi il ne s'est pas prosterné? Parce qu'il voulait faire valoir les droits de la communauté. Nous dit Rabbi Eliezer Ashkenazi, il y avait une loi à l'époque de la Perse, et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, cette loi, elle est encore en vigueur sous l'Empire Ottoman. Que lorsqu'on demande à des gens de se prosterner, ça ne concerne pas les Juifs. Parce que les Juifs, on leur fait un kavod, que c'est le premier peuple à être sorti de l'esclavage, on ne leur demande pas de se prosterner. Et donc il dit, Mordechai voulait montrer les droits de la communauté juive à ne pas se prosterner. Pourquoi les autres se prosternaient? Parce que là aussi, ils avaient peur. Mais Mordechai, en tant que chef des institutions juives, il a dit, moi, je ne me prosterne pas. Moi, je suis Joël Mergui, je ne me prosterne pas, je suis le chef du consistoire, je dois avoir un statut devant les autorités. Tov, mais sauf que d'après cette explication, est-ce que Mordechai est un prophète? Non. Est-ce que c'est un Talmid Chacham? Pas forcément. Est-ce que c'est un sioniste convaincu? Ben non, il est chef de la communauté juive là-bas. Donc c'est un responsable communautaire. Tov, il a fait merde. Mais il y a une cinquième explication. Et cette cinquième explication, je vous rassure tout de suite, va falloir s'accrocher. Mais c'est la seule qui est plus ou moins marquée dans la Megillah. Et cette cinquième explication nous provient d'un des maîtres de la Chassidoute qui s'appelle Rabbi Mordechai, tiens, c'est fait exprès, Rabbi Mordechai Yosef Leiner, Baal Me'ashiloach. Me'ashiloach, c'est un des grands maîtres de la Chassidoute, c'est le Rabbi de Ishbitzer. C'est le maître de Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin. Bekitsour, nous dit le Me'ashiloach, pourquoi Mordechai ne s'est pas prosterné? Mais je vais t'expliquer, mon ami. Et nous dit le Me'ashiloach qu'en fait, Mordechai, vous savez, nous on dit Mordechai à Yehudi, mais lui, il l'appelle Mordechai à Chiloni. Parce que d'après Rabbi Mordechai Yosef Leiner, Mordechai était un juif complètement assimilé. Complètement assimilé. Et il y a plein d'allusions à cela dans la Megillah. D'abord, il s'appelle Mordechai. Je veux dire, les noms des héros de la Megillah, c'est Mordechai et Esther. Les amis, j'aimerais juste qu'on traduise Mordechai et Esther au 21e siècle. Mordechai et Esther, c'est Christian et Marie-Madeleine. Vous comprenez? Mordechai, nous dit la Gemara, c'est Mordor. Mordor, c'est le nom du dieu principal de la mythologie perse et babylonienne. Esther, c'est Ishtar, la déesse de l'amour et de la sexualité chez les Babyloniens et les Perses. Autant te dire que dans le temple de Ishtar, c'était pas vraiment la tzniut de Bdemak. En plus, Esther, elle a un nom juif. Elle s'appelle Hadassah. Sauf que tout le monde l'appelle Esther. C'est incroyable. C'est comme quelqu'un qui aurait un nom juif, je sais pas, moi par exemple, Moshe, mais tout le monde l'appelle Jean-Jacques. Parce que ses parents l'ont appelé Jean-Jacques. Moi, je veux bien. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un tzaddik. Mais si on t'appelle Jean-Jacques à la base, c'est que tu ne viens pas d'une famille qui a grandi à Mecharim. Donc, Mordechai, il peut devenir tzaddik. Il n'y a pas de problème. Mais si ses parents l'ont appelé Mordechai, c'est qu'a priori, la tradition juive, c'est pas ce qui gère la famille. D'autre part, vous savez, à un moment donné, les gardes d'Achashverosh sont venus chez Mordechai et Esther pour prendre Esther, pour la mettre dans le harem. Vous savez, quand il voulait une nouvelle femme, il a pris Esther. À ce moment-là, Mordechai il dit à Esther, surtout, ne dis à personne que tu es juive. C'est marqué dans la Megillah. Mais attendez, je n'ai pas compris. quand ils sont arrivés à la maison, ils n'ont pas vu une mezouza à la porte. Ils n'ont pas vu une photo de Baba Salé. Ils ont pas vu, j'ai pas compris. Ils ont pas vu un signe, ils ont pas vu une main, ils ont pas vu quelque chose. Ben non. Il n'y avait pas dans la maison de Mordechai Esther, il n'y a pas de symbolique juive. On ne veut pas montrer qu'on est juif. Incroyable. Rabotai, Mordechai, il est complètement assimilé. D'ailleurs, vous savez quoi? Mieux que ça. Et le pire dans tout ça. Si vous avez des filles à la maison, vous avez des jeunes filles? Oui, oui, faites avec la tête. Vous avez des jeunes filles? Moi, j'en ai 3 à la maison. Hein, ça passe. Maintenant, 3 aussi, toi? Bah, tu vois. Donc, on sait tous qu'il y a un moment donné, bon, toi, Anaïs, ça passe, mais nous, les garçons, on sait tous qu'à un moment donné, il va falloir les marier, nos jeunes filles. Et on est déjà sûr qu'il n'y a personne qui sera assez bien pour nos filles. Ou il n'y a que moi? C'est que moi?
C'est un truc ashkénaze. C'est séfarade.
Ouais, mais tu vas voir, quand ta fille, elle voudra te ramener un ashkénaze, on verra comment tu répondras.
Si, Harry aussi.
Mon frère, il est pas bon, je dis pareil. Mon frère, il est Lubavitch, toute la famille.
Bah, t'as vu? Mais Guizzo, t'imagines terminer la Mimouna? Tu accepteras un truc comme ça, toi? C'est pas possible. C'est pas possible. Mais Guizzo, on a des filles, on les adore, mais moi je dis à mes enfants, hein, je vous souhaite pas du tout. C'est pour ça que je suis pas d'accord qu'ils se déguisent en Reine Esther. Parce que une colle à cavode, la Reine Esther, c'est ça l'exemple. Je veux dire, on parle quand même d'une jeune fille qui a été kidnappée par un non-juif, qui s'est fait violer, et qui, à la fin du film, reste chez Achashverosh. C'est-à-dire que Esther, elle est perdue pour le peuple juif. C'est quand même terrible ce qui lui arrive. Et toi, imagine, Mordechai, je veux dire, moi, si, Chas vechalila, Chas vechalom, ben porat Yosef, ben porat aleaïn, tout ce que vous voulez, Chas vechalom, que quelqu'un, il vienne, il essaie d'abuser d'une de nos filles. Et à ce moment-là, toi, t'entends qu'il y a quelqu'un qui prépare un complot pour tuer le goy qui a voulu violer ta fille. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu fais Miché Béra pour que ça marche, le complot. Et là, il y a Mordechai qui entend que Biktan et Teresh, ils veulent tuer Achashverosh. Ainsi, ils vont libérer Esther. Et lui, non, il va prévenir Achashverosh. Eh bien, nous dit le Ishbitzer, Rabbi Mordechai Yosef Leiner, ça veut dire que Mordechai était un juif assimilé complètement et il était fan de son roi. D'ailleurs, nous dit-il, pourquoi il ne se prosterne pas? Mais parce que c'est le beau-frère du roi. C'est le beau-père du roi. Il est, d'après la Megillah, le tuteur légal de Esther. Esther, c'est devenu la reine. Bah, allô, je suis le beau-père du roi. Je bien sûr que je ne me prosterne pas devant toi. Donc, d'après notre cinquième explication, Mordechai, c'est un juif assimilé. Vous remarquez quand même qu'on est parti de très très haut et on est arrivé très très bas. C'est-à-dire qu'on est parti en disant que Mordechai était un prophète, ensuite on est descendu Talmid Chacham, ensuite juif sioniste, ensuite juif communautaire et juif assimilé. Bon, sauf que moi je pose une question, mais c'est qui le vrai Mordechai? C'est lequel des 5? Eh bien les amis, voilà le grand secret de la Megillah. Chas v'shalom, qu'on sache qui était le vrai Mordechai historique. Lorsque finalement Aman veut tuer le peuple juif, est-ce qu'il a décidé de tuer les prophètes, les rabbins, les religieux, les juifs de gauche, les juifs de droite, les juifs sionistes, les juifs passionnistes? Non. Aman, il veut tuer tout le monde. Il s'en fiche de savoir à quelle tribu tu appartiens. Il s'en fiche de savoir si t'es Ashkenaz, si t'es séfarade, si t'es juif comme ci, juif comme ça. Les lois Nuremberg, elles sont pour tous les juifs. Lorsque Esther, parce que, pose la question, le Ishbitzer, il dit, ok, mais à un moment donné, Esther et Mordechai, ils font un switch. Nahon. C'est quand le switch de Esther et Mordechai? Quand Aman, il a fait son décret. C'est-à-dire qu'au moment où il y a l'antisémitisme qui dit, voilà le décret, on va tuer tous les juifs, même s'ils ne sont pas religieux, même s'ils sont convertis au persisme, s'ils ont un grand-parent juif, eh ben ils seront quand même considérés comme juifs. À ce moment-là, Mordechai et Esther, ils se disent, Mais on ne peut plus rester comme ça. Et vous remarquerez qu'à partir du moment où il y a le décret de Haman, Mordechai ne s'appelle plus seulement Mordechai, il s'appelle Mordechai Hayehoudi. Pas parce qu'il est forcément religieux, mais parce qu'il est ramené à sa condition de juif par le goy, par l'antisémite. Qui fait pas la différence si t'as une barbe, si t'as des péotes, si t'as pas de péotes. T'as un gros nez, ça suffit. Zéro. À ce moment-là, quand Mordechai dit à Esther, va faire quelque chose, va prier pour nous, il n'y a que toi qui peux nous sauver. Esther, elle dit, ok, mais à une condition. L'air kenos et kol ayehudim asher beshushan. Va et rassemble tous les juifs. C'est qui tous les juifs? Les cinq qu'on a évoqués tout à l'heure. C'est-à-dire toutes les sortes de juifs. On a besoin de tout le monde. Le sujet ici, c'est pas religieux comme ci ou religieux comme ça. C'est Am Israël qui est en danger. C'est pas les religieux ou les gens de gauche ou les gens de droite. Pourquoi est-ce que Pourim va rester même après la galoute et même les Hatid de l'avant? Parce que le secret de Pourim, c'est Achdout du peuple d'Israël. C'est l'unité du peuple juif. Malheureusement, cette unité, elle est venue par l'intermédiaire de la persécution. Mais une fois qu'elle est là, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'elle est là? Une fois qu'on a atteint cette unité. Vous savez, en Israël, ça se dispute toutes les 5 minutes. Mais à chaque fois qu'il y a un problème, qu'il y a une guerre ou qu'il y a des... On est plus ensemble qu'ensemble. Je me rappelle cette phrase extraordinaire du Rav Israël Meir Lao en 2005 à Auschwitz. Le Rav Lao, il a dit, pendant la Shoah, le peuple juif a montré qu'il était capable de mourir ensemble. Le défi du peuple juif de l'après-Shoah, c'est de montrer qu'il est capable de vivre ensemble. Rabotai Pourim, c'est de ça qu'on parle. Achdout du peuple d'Israël. C'est le seul secret et le seul tenaï pour que ça marche. La seule condition pour avoir l'éternité du peuple d'Israël, c'est son unité. Maintenant que j'ai dit cela, que Pourim, c'est la fête de l'unité du peuple juif, vous comprenez que toutes les mitzvot de Pourim tournent autour de rassemblement. La Megillah, pour que tout le monde entende bien que tout le monde a été concerné. Donc que ça ancre en toi la notion que tous les juifs sont ensemble. Et ensuite, tu vas aller te rattacher aux juifs qui n'ont pas de quoi faire la fête de Pourim, Matanot Levionim, tu vas les rattacher. Tu vas aller rattacher ton copain, Mishloach Manot Ishlereu, et tu vas faire le Mishté parce que tout le monde sait qu'il n'y a rien qui réunit plus les gens qu'une bonne bouffe. Toutes les fêtes, toutes les mitzvot de Pourim, c'est pour être ensemble. C'est pour arriver à cette dimension de Achdout. Oui, mais on ne va pas s'arrêter là. Parce qu'une fois qu'on a compris l'Achdout, alors il faut aller un shlav au-dessus. Il faut aller une étape encore au-dessus. De Achdout, il faut arriver à Echad. À Pourim, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a l'habitude de faire quelque chose qui nous met dans un état, on va dire, pas habituel. Chaya vinish le besum et bepuraya. On doit boire à Pourim jusqu'à ne plus être capable de faire la différence entre Arur Aman et Baruch Mordechai. Comprenez-moi bien, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux façons de comprendre pourquoi on boit à Pourim. Pourquoi on boit à Pourim? De même, pourquoi on se bourre la gueule à Pourim? Ben, il y a soit on boit, soit on se bourre la gueule. C'est deux choses différentes. Vous savez, dans le livre Kadosh, qui s'appelle Le Petit Prince, de Antoine de Saint-Exupéry, que je recommande à tout le monde encore une fois, Le Petit Prince, quand il arrive sur la planète du buveur, il voit un homme qui boit. Et il lui dit, pourquoi tu bois? Et il lui dit, je bois pour oublier. Et tu oublies quoi? Ben que j'ai honte. Et tu as honte de quoi? Ben que je bois. Bon, là-bas, c'est un cercle vicieux. Mais c'est vrai qu'on connaît plein de gens qui boivent pour oublier. Mais nous, on ne veut pas boire pour oublier. On veut boire pour autre chose. On boit pour ne plus être capable de faire la différence entre Arur Aman et Baruch Mordechai. Attention! Attention! À aucun moment, on doit penser que Aman, il est Baruch, et que Mordechai, il est Arour. Chas v'shalom. Même quand on sera bourré, Aman, il restera Arour et Mordechai, il restera Barour. Seulement, il n'y aura plus de différence entre les deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à Pourim, grâce à l'unité du peuple juif, tu peux dévoiler un autre truc qui s'appelle Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Echad, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, s'il est véritablement un, eh bien, il se dévoile par Baruch Mordechai et il se dévoile aussi par Arour Aman. Mais sauf que vous comprenez qu'une phrase comme ça, tu peux pas le dire quand tu es pas bourré. Parce que si quelqu'un vient à la synagogue et il dit, je sais pas moi, le Rav Mordechai Eliyahu et Hitler Zeoto Davar, et tu vas lui mettre au moins deux baffes. Nahon, tu peux pas dire un truc comme ça. Mais quand t'es bourré, tu peux dire c'est pas de ma faute, j'étais bourré. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ba omek, bifnim. Tu arrives à une compréhension que behemet Hashem Echad. Nous dit la Gemara dans le traité de Yoma, Shikor, kol haolam dome alav kemishor. Celui qui est bourré, le monde entier ressemble à une grande plaine. C'est-à-dire quoi une grande plaine? Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de montagne, de vallée, de... Non, tout est droit, tout est autodavar. Tu bois à Pourim pour arriver à cette dimension que Hashem Echad. Que tout, en fait, c'est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Que tout est Akadosh Baruch Hu. Alors, Nachon, dans la vraie vie, tu ne peux pas dire ça. Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit, on me sert par le bien, on me sert pas par le mal. On me dévoile par le bien, on me dévoile pas par le mal. Ah ben, je sais qu'en vrai, il est présent aussi dans le mal. Le corona, ça nous saoule. Mais on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il est aussi derrière tout ça. Et qu'il y a quelque chose de positif qui va sortir de tout ça. Mais pour être capable de dire, Hashem Echad Mamash, alors on a besoin de... En fait, on a besoin de quoi, je vais vous dire? On a besoin d'arriver à cette dimension de Lo Yada. Chaya Vinish Lebesume Bepuraya Ad de Lo Yada. Il faut arriver à cette dimension de Lo Yada. Le Sefer HaZohar nous dit, faut arriver à la dimension de Mashenikra Reisha de la Itiada, à Roche à Biltinoda. Après que tu saches plein de choses, tu arrives fort de toutes tes connaissances à comprendre que tu sais pas. Il y a une différence entre un élève de CM2 qui sait pas résoudre une équation à deux inconnus, qui est l'Oyodéa, et il y a un mathématicien énorme qui a reçu la médaille Fields et qui ne sait pas. C'est pas le même « je sais pas » entre le mathématicien et l'élève de 10 ans. Qui est le premier à avoir atteint le niveau de l'Oyada? Vous savez qui est le premier qui a atteint la dimension de Ad de Loyada? Eh bien, c'est celui pour qui nous nous retrouvons ce soir. Car on a oublié de le dire, mais ce soir, c'est la Iloula de Moshe Rabbeinu. Zayin Be'adar, Rabotai. Ce soir, c'est Moshe Rabbeinu. Vous savez que Moshe Rabbeinu est l'homme qui est la figure emblématique de Pourim. Vous savez que Moshe Rabbeinu, c'est Pourim. Allez, Moshe Rabbeinu, c'est quand la Brit Mila de Moshe? Il est né le 7 Adar. Donc sa Brit Mila, c'est Pourim. Le 15 Adar. Alors vous allez me dire, il est né Brit Milé. C'est Nahon, mais même quelqu'un qui est né Brit Milé, on doit lui faire couler une goutte de sang le 8e jour. Donc Moshe, sa Brit Mila, c'est Pourim. Moshe Rabbeinu, on va toujours pratiquement lire la paracha de Kitissa à côté de Pourim. Ce sera le Shabbat d'après Pourim pour nous. Qu'est-ce qui se passe dans cette paracha extraordinaire? Dans cette paracha extraordinaire de Kitissa, alors oui, il y a le Vaudor, mais il y a surtout après, le moment où Moshe est monté sur la montagne et redescend avec les Louchot, pas celle qui va casser, les deuxièmes. C'est dans la fin de la paracha de Kitissa, Moshe descend avec les deuxièmes louchot abrit. Et vous savez ce qui se passe là-bas? Vous vous rappelez de ce qui se passe là-bas? Quand il redescend, la Torah nous dit que son visage, il émettait des radiations. Kikaran orpanav. Mais c'est Kikaran orpanav. Il y avait une lumière qui sortait du visage de Moshe. Bon, Michel-Ange, il n'a pas compris le texte. Il a dit Kikaran orpanav, alors il a compris Karan, c'est Keren, et Keren, c'est une corne. Alors quand il a fait la statue de Moshe, Michel-Ange, il lui a fait deux cornes. C'est pas une blague, hein, c'est pour de vrai. Mais sauf que bon, c'est pas parce que Michel-Ange, il lui a fait des cornes que c'est vrai. Non, non, Kikaran orpanav. Mais regardez ce que dit la Torah. La Torah, elle est extraordinaire. Vous savez, vous connaissez l'histoire. On nous dit que son visage, il éclairait. Et alors, qu'est-ce qu'il faisait pour pas faire peur au Bnei Israël? Hein, qu'est-ce qu'il faisait? Quoi? Mets ton micro, je n'entends pas. Ça veut dire quoi, ça?
Il levait les mains et son frère Aaron l'aidait pour les laisser.
Non, ça, tu parles de la guerre contre Amalek. Moi, je ne te parle pas de ça. Je te parle quand il redescend de la montagne avec les deuxièmes Luchot Abrit et qu'il arrive et que sa face éclaire, on nous dit qu'il mettait un masque. Alors, ce qu'ils veulent prendre dans le texte, c'est dans le livre de Shemot, au chapitre 34, au verset 27. On nous dit là-bas, « Vayomer Hashem el Moshe, k'tov lecha et advarim ha'ele, albi advarim ha'ele, karati itra brit ve et Israël, ve'isham im Hashem, 40 yom ve'arbaim laila. » לחם לא אכל ומים לא שתה, ויכתוב על הלוחות את דברי הברית עשרת הדברים, ויהי ברדת משה מנהר. Lorsque Moshe descend de la montagne, ויהי ברדת משה מהר סיני, היו שני לוחות העדות ביד משה. Il a les deux tables dans la main. ושני לוחות העדות ביד משה, ברידתו מנהר. ומשה לא ידע כי קרן אור פניו, בדברו איתו. Quand Moshe descend, avec le deuxième louchot, qu'est-ce qui a marqué? Ou Moshe lo yada. Moshe est arrivé à cette dimension de ad de lo yada. Il savait tellement qu'il est arrivé au stade où il a su qu'il ne savait pas. Ou Moshe igia le reisha de la it yada. Rabotai, c'est de ça qu'on parle pour Purim. Purim, c'est dévoiler ce qui ne pouvait pas être dévoilé. Dévoiler ce qui était caché. D'ailleurs, c'est ce que veut dire le mot Megillah. Megillah, nous disait le Rav Tzvi Yehuda Kouk, c'est Magal Ya. Les lettres Megillah, ça forme les deux mots Magal, dévoiler, Ya, Akadosh Baruch Hu. Et je terminerai en vous disant la première Mishnah dans le traité de Megillah nous dit la chose suivante. Megillah nikret ביוד א', ביוד ב', ביוד ג', ביוד ד', בתדבר, לא פחות ולא יותר. נודי למשנה, כי הוא פליר למגילה בסרטן סרקונסטנס, ל-11 אדר, ל-12 אדר, ל-13 אדר, ל-14 אדר, ל-15 אדר. מפה אבן, מי אבחה. טוב, בסדר גמור? סוף כדו זרונד, ונאו נסה דקומפרונד. הוא נדי מגילה, זה מגל יא. C'est-à-dire de dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Nous dit la Mishnah, il y a un moyen de dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Mais il y a un autre moyen par lequel tu ne peux pas le dévoiler, du moins pas encore. Mais quel est ce moyen qu'on peut et qu'on ne peut pas? Eh bien, regardez deux secondes. C'est absolument incroyable. J'ai entendu cette explication et franchement, je la redis tous les ans parce qu'elle est fantastique. On a dit Magalia, Megillah, c'est dévoiler Dieu. Mais attention, on nous dit on peut dévoiler Dieu le 11, le 12, le 13, le 14, le 15. Alors on va voir les matheux. Ça fait combien? 11 plus 12 plus 13 plus 14 plus 15. 11 plus 12 plus 13 plus 14 plus 15. Allez, je vous aide.
65.
Ouais, il y a fait. Il y a fait. Merci. On a les vrais. Hein. Il y avait.
Allez, tu allais le dire?
Non, il n'allait pas le dire. Bekitzo, 65, tu as raison. 65, c'est la gématria du mot Adonai. Mais on nous dit dans la Mishnah, lo pachot velo yoter. C'est combien pachot de 11? Moins que 11. C'est 10. Elle n'a pas besoin de calculette. Et c'est combien Yoter de 15? C'est 16. Ça fait combien 10 plus 16? 26. 26, c'est Yudke Vavke. Nous dit la Megillah, la Mishnah, tu peux dévoiler à Kadosh Baruch Hu par l'intermédiaire de Adonai, mais pas de Yudke Vavke. Quand il y a marqué Yudke Vavke dans la Torah, on le lira comment? Adonai. Et en fait, c'est ce que nous dit la Torah lorsqu'elle nous dit « Ze shemi le'olam ve ze zichri le'dor dor. » Shmi le'olam ze yudke vavke. Avalune elam. Mon souvenir dans chaque génération, c'est Aleph Dalet Nun Yod, Adonai. En d'autres termes, quand on étudie la Torah, tous les jours, toute l'année, on arrive à dévoiler Aleph Dalet Nun Yod. On n'arrive pas à dévoiler Yudke Vavke. À Pourim, fort de l'unité du peuple juif, fort du fait qu'on a compris qu'on est ensemble, si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas, alors on peut dévoiler Hashem Echad. À ce moment-là, quand on est bien bourré, on peut arriver à ne pas comprendre et donc à comprendre quel est le dévoilement qui passe par Yodke Vavke. La fête de Pourim, c'est comment est-ce qu'on arrive grâce à la Achdout d'arriver au Echad. Et vous comprenez donc pourquoi est-ce que cette fête de Pourim-là, eh bien, restera pour l'éternité. Pas seulement pour fêter la victoire sur l'antisémitisme, mais au contraire, pour fêter le moment où on arrive à se rattacher à la dimension idéale du dévoilement divin dans ce monde. Chez nous, Chag Sameach Lekulam ve Miche Miche, comme on dit. Chazak Baruch à tout le monde.
Amen. Amen. Merci beaucoup, Chazak Baruch, exceptionnel. Chazak.